Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Belle Elle Gamer. Nous sommes le lundi 6 mai 2024. Aza, ça fait 3 jours qu'on n'a pas internet.
Et oui, c'est pas fini en plus.
La Belle Elle Gamer, épisode numéro 323, sponsorisé par Orange. Merci.
Non, justement, pas sponsorisé par Orange.
Merci pour rien. C'est pas grave, même sans Internet, on reste le meilleur podcast de la galaxie. Aza, bonjour, bienvenue. Merci de continuer à couvrir l'actualité des jeux vidéo avec moi. On est au mois de mai, c'est parti, on se rapproche de l'été, on se rapproche de l'E3, sauf qu'il n'y a pas d'E3, mais tu m'as compris.
Et on se rapproche du festival de Jeff Keighley.
On est à un mois, voilà, on est à un mois du Keighley, du Keighleyton.
Du Keighleyton. Du
Summer Keighleyton. Et avant de commencer, qu'est-ce qui se passe ici, ma chère Aza et moi-même Ben? On est là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant et de pas intéressant dans le monde des jeux vidéo. Ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est disponible partout où on peut trouver des podcasts. On stream également de temps en temps sur Twitch et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver tous les deux ainsi que tout le reste de la communauté du podcast sur Discord. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite et vous pouvez même nous soutenir sur patreon.com/labelleetlegamer. Rendez-vous dans les notes de cet épisode pour tous les liens utiles. Voilà.
Très bien.
Très bien. On est le premier épisode du mois.
Ah oui, il faut faire les Patreons.
Il faut faire les Patreons. Tous les mois, on prend un peu plus de temps pour remercier chaque membre de la communauté qui soutient le podcast via Patreon. La Belle et Gamer a mis en place un Patreon qui vous permet de nous aider à continuer à produire des épisodes chaque semaine. Le Patreon, c'est un palier unique de 4 euros par mois, ce qui fait en gros 1 euro par épisode. Et à quoi nous servent ces sous? Avec ça, on entretient le matériel d'enregistrement. On couvre les frais d'hébergement du podcast et ça nous aide à consacrer plus de temps pour vous préparer le meilleur podcast possible. En contrepartie, en participant au Patreon, vous avez accès à un canal secret sur notre serveur Discord où vous pouvez gagner des cadeaux et où vous pouvez assister chaque semaine à l'enregistrement de l'épisode en direct. Sauf cette semaine, parce qu'on n'a pas internet. Merci Orange. Merci à tous ceux qui nous aident. Et pour ce mois de mai 2024, la Belle et le Gamer est rendue possible grâce à la générosité de Fils de Gandalf, Stéphane de l'épisode 316, Gabriel V, Licamp, Rentemplan, Yoji, Kirin, Matt Giver, Schnurz 2056, Niederschaffelsheim, c'est en Alsace. Agadel Tak. Alors, le thème.
C'est quoi le thème?
Le thème, c'est des mots compliqués que je ne vais pas réussir à dire.
Ah, très bien.
C'est le défi. Mais bon, je suis alsacien, donc c'est mal tombé. Rouge Pingouin, Mensetsu, Focalor, Raxacoricofalapatorius, Darkman, Miempar, Nasbrock, Tugnafeljokul, B413, Yadraos, Palace, la Méduse, Dr. Sembei Norimaki, Razorfil, l'Otorino Laryngologiste Kirashkit, Anthony C., Broch-Wickersheim, cette ville magnifique, toujours Alsace, hein, Nicolas Dussalève, Emmanuel P., Mélanie, Huberté, Chitaï, la Guerta, Elfoufi, Désoxyribonucléique, Acide Acétyl Salicylique, Duan Ra 78, Bjarn Logur, J'aime la casquette de Ben, Maître Franz, Rodo, Joey, Azazel et Peggy C18. Voilà, merci à tous, merci à vous et merci à tous les autres aussi.
Merci à tous.
Même merci à ceux qui ne sont pas sur Patreon, merci, c'est pas très grave, on vous aime tous et merci de votre soutien et de votre fidélité chaque semaine depuis 6 ans. Aza ?
Oui.
On va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer à parler des jeux auxquels on a joué cette semaine. Semaine un petit peu bizarre, on voulait vous parler déjà pour commencer de... alors sorti il y a quelques jours, quelques semaines déjà, le dernier DLC de Final Fantasy XVI. Mm-hmm. Donc tu sais que Final Fantasy VII, bon, il est sorti l'année dernière, il y a eu deux DLC, il y en a eu un très court l'année dernière qui était un petit peu anecdotique, mais celui-là, voilà, c'est celui que les gens attendaient. Ça s'appelle The Rising Tide en anglais, la complainte du ressac en français.
Trop mignon.
Et c'est celui, voilà, bon.
C'est Léviathan,
voilà, exactement. C'est un petit peu ce qui manquait au jeu. Alors,
ce qui manquait. Manquait autre chose. Hein,
non, mais scénaristiquement.
Manquait pas que ça, quoi.
Scénaristiquement, Léviathan The Lost, comme il l'appelle dans le jeu de base. Alors pourquoi The Lost, hein? C'est parce qu'il était caché sur une région qui était masquée par une barrière magique, hein, mais. Que notre ami Clive arrive à retrouver, parce qu'il faut bien aller là-bas.
Il est fort, ce Clive.
Ouais. ça se passe juste avant la fin du jeu. Ça se passe pas après la fin, pour des raisons spoileriques.
Pour des raisons spoileriques.
mais ça se passe juste avant le point de non-retour. Clive part en balade dans cette nouvelle région cachée, secrète, avec une barrière magique, tout ce que tu veux là, Mycidia, qui est... Bon, c'est plus de Final Fantasy XVI. Hein. Il ne faut pas s'attendre à une révolution sur ce DLC. Ceux qui ont bien aimé Final Fantasy XVI, eh ben, ça sera plus de Final Fantasy XVI et c'est cool. C'est le même niveau de production, c'est-à-dire que c'est une nouvelle région qui est magnifique. C'est un thème un petit peu tropical, ce qui permet au graphisme vraiment de Final Fantasy XVI de bien s'exprimer. Mm-hmm. Parce que c'est quand même un jeu qui est plutôt beau.
Ah oui, bien sûr.
Plutôt beau et gâché, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, par pas mal de régions désertiques, arides dans le jeu de base. C'est jamais mes régions préférées dans les jeux vidéo de manière générale.
Ah ouais,
j'aime bien une belle végétation luxuriante. Je trouve que ça permet vraiment artistiquement de s'exprimer un petit peu plus. Et c'est ce qu'on a là dans ce DLC de FF16. Après, voilà, c'est une continuité. C'est un chapitre en plus du scénario qui permet de rencontrer ce primordial perdu, Léviathan, avec toute l'histoire qu'il y a autour. Niveau gameplay, c'est ça. C'est un donjon, c'est une région en plus, avec un donjon en plus, avec à la fin un combat contre le primordial, un combat tout aussi spectaculaire que tu peux l'imaginer avec tous les combats contre les primordiaux qu'il y a déjà eu dans FF16. Mmh. Et à la fin, possibilité de récupérer les pouvoirs de Léviathan pour étoffer un petit peu l'arsenal de combat de Clive.
Tu couches avec aussi ou pas?
Non, c'est déconseillé.
Non,
mais par contre, tu récupères le pouvoir et donc ça te permet d'avoir des pouvoirs de Léviathan dans ton arsenal de combat. Et c'est des pouvoirs qui sont très axés sur des attaques à distance, en fait. C'est un peu... Voilà. C'est un petit peu le principe, c'est barrette, en fait, ça va transformer ton bar en mitraillette et
c'est vrai,
c'est un peu ça, c'est...
mais avec de l'eau
ouais. Ah oui, non, ça crache surtout, mais c'est très efficace, c'est très fun en combat. Il y a aussi la possibilité, il y a deux primordiaux de plus pour ton arsenal. Il y a Léviathan et tu as aussi la possibilité de récupérer les pouvoirs d'Ultima. Ça tu les récupères grâce à un autre truc qu'il y a dans le DLC. C'est un genre de donjon où tu fais des runs consécutifs, voilà. Pour les gens qui aiment bien le combat et un petit peu la difficulté dans FF16, bah, ils sont servis à cet endroit là quoi. Voilà. Sinon c'est un DLC tout à fait honnête, hein, pour son prix. C'est du contenu en plus pour FF16 et c'est
combien ça coûte?
Alors le package, je crois que c'est un package avec les deux DLC. Alors, FF, je cherche. Hein.
Bah ouais.
Le prix, 24,99.
Ouais, je sais pas.
Voilà.
Ça reste toujours cher. Hein.
24,99 le package avec les deux DLC, et séparément, je crois que c'est 10 le premier et 20 le deuxième. Voilà, en gros c'est ça. Donc oui, non, c'est un petit peu de... C'est pour les fans de FF16.
C'est ça.
Voilà, nouvelle région, nouveau donjon, nouveau boss, nouvelle quête secondaire, un petit peu dans le même esprit que les quêtes secondaires qu'il y a déjà eu, nouvelle musique, nouveau tour, quoi. C'est une extension de Final Fantasy XVI, mais ça reste le même jeu. Donc vraiment, les gens qui ont aimé Final Fantasy XVI vont pas être déçus.
Ils sont deux.
Non, tu es méchante. Tu es méchante. Non, par contre, les gens qui ont trouvé Final Fantasy VII un petit peu lent, un petit peu... Voilà.
Oui, bon, c'est pas la peine d'investir dans les...
C'est pas ça qui va changer votre avis du jeu, quoi. Voilà. Voilà pour FF16, la complainte du ressac disponible. On a aussi... Alors, cette semaine, on a un peu joué à Stellar Blade.
Ah oui, moi j'ai plein de choses à dire.
T'as plein de choses à dire sur Stellar Blade. On a finalement lancé Stellar Blade pour voir un petit peu. Parce qu'il faut se rappeler que notre avis de base, quand même, sur ce jeu était plutôt positif pour le gameplay.
C'est ça.
Hein, pour le gameplay. On va vraiment séparer le gameplay du côté artistique. Côté artistique, on a également déjà donné notre avis, mais je crois qu'on a des...
On va le redonner, là, parce que, putain...
c'est compliqué.
Ah ouais, ça va loin. Hein.
Non, niveau gameplay, c'est du jeu d'action avec des petites inspirations Souls-like, mais vraiment légères, parce que c'est... Mm. Voilà, le jeu est pas dur.
Non.
Le jeu est vraiment pas dur. Il y a ces mécaniques d'esquive parfaite, de parade parfaite, qui te permettent de faire des contres, des trucs faire des combats assez dynamiques, qui ressemblent à quelque chose que tu ferais dans un Sekiro, dans un Bloodborne, dans un truc comme ça. Mais en mode facile, j'ai envie de dire. Les fenêtres de parade sont extrêmement larges, c'est généreux. Si jamais tu rates, bah c'est pas très grave, parce que les boss font pas super mal, ils ont pas énormément de vie. C'est pas un jeu qui, c'est un jeu qui est plutôt, voilà, le fait de réussir les parades, les contres, les trucs comme ça, ça permet de faire des combats qui ont du style, qui sont cool. C'est voilà, c'est joli à voir, ça bouge bien, c'est bien animé, et c'est plutôt satisfaisant, mais c'est jamais vraiment un gros défi.
Non,
mais c'est fun, voilà, c'est fun.
Bah, il faut pouvoir regarder son cul en même temps que tu te bats, quoi. Ça et peut ça, pas être trop compliqué.
Et ça marche, ça marche parce qu'ils vont te faire plein de ralentis.
Ah oui, ralentis sur son cul, ralentis sur ses seins.
Bien calculé comme il faut quand tu fais des esquives, quand tu fais des trucs.
Oui. Tout est
pensé autour de ça. Donc
tout est pensé autour de ça.
C'est un petit peu, à force, c'est un petit peu malaisant. On l'a déjà dit, et en jouant au jeu final, c'est confirmé. Hein, c'est confirmé avec cette générosité sur les tenues alternatives pour le personnage d'Eve. Tu en chopes beaucoup, très vite et très facilement. Et voilà, si tu as un effort au début de faire des tenues plus ou moins cohérentes scénaristiquement, ça part en live très rapidement. Hein. Les tenues n'ont plus aucun sens scénaristique, c'est vraiment juste pour faire plaisir.
C'est ça. Mais après, ça ne me gêne pas vraiment les différentes tenues. Je veux dire, c'est bon, ok, c'est un... C'est un jeu qui est axé sur ça, le personnage est axé sur ça. Ouais, tu fais des tenues, quoi, on est d'accord. Mais, et comme dit, le plus souvent, il y a quand même de la recherche sur les tenues. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est l'espèce de maillot à la con, là.
Ouais, le tenue.
Je veux dire, fous-la à poil, c'est plus simple, quoi.
Voilà. La tenue de lapine de Playboy, là, c'est.
Mais même pas.
Même
c'est
pas.
Même pas lapine de Playboy, en fait.
Ouais, c'est un maillot.
Ça n'a aucun intérêt et. Et bon, voilà, c'est... je sais pas.
Non, c'est un jeu qui est complètement noyé dans le mauvais goût, et pas seulement au niveau du personnage et de sa sexualisation, ça on en a parlé, mais également, voilà, les ennemis, les adversaires, les natibas, là, c'est les aliens bizarres qu'on combat. C'est jamais vraiment très inspiré,
c'est que des bites, hein. Je suis désolé, mais...
C'est très phallique, hein.
C'est très phallique,
et c'est juste très moche, hein. Et les décors sont pas inspirés. J'en parlais tout à l'heure sur FF16, mais de manière générale, les déserts et les trucs arides, je trouve ça répétitif et chiant. Il y en a que de ça dans ce jeu-là.
Ça n'a aucun intérêt, les décors. Décor, c'est son cul, hein. Donc,
artistiquement,
ils vont pas se faire chier. Hein.
Artistiquement, tout est bof dans ce jeu, mais après, gameplay, c'est addictif, ça va vite, ça bouge bien. Assez rapidement, alors la démo était très linéaire, hein, mais assez rapidement le jeu s'ouvre. Hein,
oui, il y a pas mal d'exploration.
Il y a de l'exploration, il faut réfléchir un petit peu. Il y a des quêtes secondaires, il y a des trucs optionnels.
Alors, les quêtes secondaires. Alors, en plus de ça,
ça ça aussi, c'est bizarre.
C'est pour ça que on va spoiler un petit peu une quête secondaire. C'est pour ça que je vous dis, ces gens, c'est vraiment des psychopathes. Alors, toutes les quêtes secondaires, donc ça se passe quand même en post-apo, etc. Ouais. Donc, la plupart des quêtes secondaires, c'est va chercher machin, va chercher machin, va chercher machin. Généralement, ouais, tu trouves le cadavre, il est mort, quoi qu'il arrive.
Ouais, généralement, c'est ça. C'est...
Et ces enfoirés de merde, de chi, ils ont fait la même chose avec un chat. Il y a une quête où tu arrives dans une ville, il y a quelqu'un qui dit « Ah, j'ai repéré un chat, machin, je pensais pas qu'il en existait encore et tout, j'aimerais bien le récupérer, j'espère qu'il va bien, tout ça, il avait l'air mal en point, t'arrives, le chat, il est mort. »
C'est ça.
Et oh, fais... ils ont... Le chat, il est mort, sans déconner.
Toutes les quêtes secondaires, c'est ça.
Il y a que des bites et des putes et il tue le chat, mais c'est quoi ces psychopathes?
Toutes les quêtes secondaires, c'est ça. Attends, toutes les quêtes secondaires, c'est ça, c'est « Ah, j'ai perdu ma sœur, elle est morte. J'ai perdu mon mari, il est mort. Je sais pas, je cherche machin, il est mort. J'ai perdu mon chat, il est mort. » C'est la conclusion de toutes les quêtes secondaires, c'est ça. C'est...
Mais c'est pour ça, c'est pas que malsain par rapport à la sexualisation de la fille. C'est malsain parce qu'il y a uniquement la sexualisation de la fille. Tout le reste autour, c'est hyper gore, en fait.
Il y a une vibe malaisante.
C'est vraiment super bizarre. C'est vraiment super bizarre. Et d'ailleurs, alors je voulais le mentionner, hein, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, et comme dit, c'est des rumeurs qui sont pas du tout vérifiées, voilà, mais il y a quand même des rumeurs de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle au sein du studio et par rapport aux gens qui ont fait le jeu, hein, quand même.
Oui.
Alors, comme dit, c'est pas vérifié, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est avéré. Mais il y a pas mal de rumeurs sur internet sur quand même des pratiques pas top
dans
le studio, quoi.
C'est pas un studio qui a bonne réputation, voilà. c'est certain.
Et franchement, c'est logique. Je veux dire, quand tu vois le jeu qui a été produit,
c'est tellement pas étonnant. Ouais.
Tu te dis, mais c'est pas possible. Les gens qui ont fait ça, ils ont un problème vraiment grave, quoi.
Ouais.
Donc voilà.
Ouais, c'est vraiment pas étonnant, mais bon. Voilà, après, le jeu, il est ce qu'il est, quoi. Et c'est dommage parce que c'est un jeu tout à fait correct qui est gâché
par des
trucs qui desservent pas le jeu.
Non, c'est ça craint, quoi.
C'est dommage. On a aussi passé cette semaine pas mal de temps de nouveau sur Harold Halibut qui continue à être hyper charmant.
Ouais, c'est cool.
Ça, c'est alors.
Sachant, on fait Stellar Blade et Harold Halibut.
C'est l'inverse, tu vois. On va chercher Stellar Blade pour le gameplay parce que c'est fun, c'est dynamique, c'est marrant, c'est addictif, t'as envie de continuer à jouer pour le gameplay. Harold Halibut, c'est l'inverse, y a pas de gameplay du tout. Zéro.
Par contre,
y a une ambiance charmante.
Oui, mais y a pas de sexualisation non plus. Hein.
Non, très peu.
Zéro, hein.
Ou alors, pour un public très, très, très particulier. Mais qui aime bien les poissons, mais
c'est ça.
Mais non, c'est des personnages charmants, c'est une ambiance charmante, c'est vraiment adorable comme jeu. C'est
adorable, c'est ça, c'est trop mignon. Quoi.
C'est vraiment mignon, les dialogues sont bien écrits, c'est bien joué, c'est cool. C'est cool, le personnage de Harold Halibut, c'est extrêmement attachant.
Oui, vraiment.
C'est un jeu qu'on fait...
Super jeu, hein. Après,
Et qui n'est pas si court, je pensais qu'il serait très court.
Oh non, en fait, il n'est pas spécialement court. Hein.
Après, ce n'est pas un jeu qui se prête à des sessions intenses de 12 heures sans s'arrêter, tu vois, mais c'est vrai que nous, on aime bien jouer une heure le soir avant d'aller se coucher, et ça nous dure pas mal, et c'est cool.
Non, mais ça va, je veux dire, même si c'est un peu plus long que prévu, l'ambiance... Enfin, et puis ça se prête, finalement, parce que c'est un jeu qui est quand même dans la lenteur, dans l'ambiance, dans le... Bon, voilà, si ça te plaît, t'as envie que ça dure, ça dure un petit peu, quoi, minimum.
Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Voilà pour les jeux de cette semaine. C'est, on l'a dit, c'est une période assez calme, hein, donc ça nous permet de faire un petit peu des jeux à gauche, à droite... qu'on n'a pas trop pu faire ces derniers temps, mais ça fait du bien que ça se calme un petit peu.
Ben oui, surtout que là, pour nous, ça va certainement peut-être s'accélérer niveau perso, donc on espère.
On espère.
On espère, donc si ça se calme un peu côté jeux vidéo, c'est pas plus mal.
On passe à l'actu ?
Ouais.
C'est parti. L'actu de la semaine, c'est... alors, on va commencer par ça. Microsoft, Xbox a annoncé officiellement son Xbox Game Showcase.
Ah.
On en parlait tout à l'heure, hein, le Kiliton va commencer.
Mais c'est pas dans le Kiliton, du coup.
Mais c'est à part du Kiliton. Le Kiliton, c'est le vendredi 7 juin.
C'est le Filouton, ça.
Hein ?
Le Filouton.
Le Filouton. Le Kiliton, c'est le 7 juin.
Mm-hmm. Hein,
le Summer Game Fest de Jeff Keighley est prévu pour le vendredi 7 juin. Ça va être deux jours plus tard, le dimanche 9 juin, 19h, heure de chez nous. Donc un Xbox Game Showcase. Alors, qui va donc inclure des présentations, des reveals, des trailers, plein de trucs de jeux de Xbox Game Studio, de Bethesda, de Activision et de Blizzard, hein, puisqu'il y a tout le monde, mais également d'autres éditeurs tiers qui vont faire des jeux pour Xbox. Tu as une question ?
Bah, écoute, moi je suis un petit peu déçue et un peu dans l'attente d'annonces pour le contenu Blizzard, quoi, à part Diablo sur le...
Complètement.
Qu'est-ce qu'ils foutent avec
Complètement. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent avec Activision Blizzard de manière générale? C'est-à-dire qu'à part changer de nom sur la boîte, pour l'instant,
ça change rien.
Je suis sûr qu'administrativement et d'un point de vue financier, ça fait plein de différences pour Microsoft et pour Xbox.
Mais pour les joueurs, on a
Diablo 4 sur le Game Pass.
On est un peu laissé de côté, quoi.
Ça va être... Après, effectivement, ça va être des jeux qui vont sortir avec un logo Xbox et Xbox Game Studio, alors qu'avant, c'était Activision, c'était Blizzard, c'était... Voilà. Donc ça va être inclus dans des showcases comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce truc-là ? Alors, ils vont reprendre le même format que l'année dernière, je ne sais pas si tu te rappelles. L'année dernière, ils avaient fait donc ce Xbox Game Showcase, suivi directement après... d'un Starfield direct, donc un deuxième showcase consacré uniquement à Starfield. Là, ils font pareil, ils font le Xbox Game Showcase suivi direct par un direct consacré à un jeu secret. Voilà.
C'est
censuré, c'est Call of Duty.
C'est nul.
Je suis désolé, je casse le secret, le suspense, mais non, ça sera Call of Duty.
Mais c'est nul, Call of Duty, on a le même tous les ans depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu fais un showcase là-dessus ?
Eh ben c'est voilà, on va savoir quel Call of Duty ça va être, hein, parce que Call of Duty, ça peut être plein de trucs différents. Ça sera Black Ops.
Ça peut être plein de trucs différents, non, ça peut être deux ou trois trucs différents à la limite.
Mais si, parce qu'il y a
non,
Call of Duty.
Non, mais n'exagérons rien, Call of Duty, c'est Call of Duty.
Non, mais c'est Call of Duty du futur, Call of Duty du passé,
Call of Duty de
maintenant, de Call of Duty secret, Call of Duty fond du ski. Non, c'est...
Mais c'est toujours pareil,
non,
même
alors
si
là,
fond du ski, ça reste piou-piou, quoi.
Ça reste piou-piou. Mais voilà, non, ça sera... Mais voilà, le truc, c'est que maintenant, Call of Duty, c'est un jeu Xbox.
Oui, mais ça, on avait compris.
Alors, ça sortira surtout, hein, mais c'est un jeu studio Xbox.
Oui, c'est pour poser leur couille, quoi, en fait.
Mais c'est ça. Et ce qui fait que, finalement, on a une fin d'année. Si tu regardes le calendrier de sortie, Xbox...
Oui, Xbox, ça va mieux. Du coup,
Xbox,
on disait Xbox, ils sortent pas de jeux, ben finalement, oui, ça sort des jeux, en fait.
Septembre 2024, ça sera donc la sortie de Starfield Shattered Space, le premier DLC.
Ah.
Eh oui.
Mais ils ont arrangé le jeu ou toujours pas ?
Alors oui, on va en parler, c'est dans les news un petit peu plus tard, on n'est pas arrivé mais on est sur la route.
Très bien.
Donc ouais, septembre c'est le DLC de Starfield qui va sortir, octobre ça va être le nouveau Call of Duty Black Ops, novembre ça va être Avowed et Flight Simulator 2024, et décembre ça va être Indiana Jones and the Perfect Circle.
C'est
ça le titre, ouais.
Perfect Circle ?
Non, pas Great Circle.
C'est encore plus nul ?
Ouais.
C'est pire.
Great Circle, voilà, tout à fait.
C'est
donc
nul.
En décembre. Donc voilà, ça fait
le
gros cercle.
Le
ouais,
gros cercle.
Le gros...
Mais
attends. J'ai un nouveau jingle quand je veux faire des blagues. Donc oui.
Peggy 18.
Indiana Jones et le gros cercle. Voilà. Donc ouais, donc une fin d'année chargée pour Microsoft.
Alors attends, ouais. Je voulais dire un truc et puis tu m'as perturbé avec tes conneries là.
Ok, bah je vais continuer à parler alors. Donc ouais, qu'est-ce qu'il y aura dans ce showcase ?
Non, j'allais dire Black Ops, c'est bien.
Mais Black Ops, c'est bien.
Oui, c'est ce que je préfère dans les Call of Duty.
Ouais,
mais
vraiment, mais ça fait partie des plus populaires. C'est des scénarios qui sont intéressants,
c'est
machin,
plus rigolo,
c'est cool. J'aime bien Black Ops aussi, tout à fait. Maintenant c'est
tu vois,
moi.
Voilà.
Qui... Et voilà, ça. Maintenant tu vois, maintenant c'est moi qui. Alors qu'est-ce qu'il y aura bon, dans
Indiana
ce showcase?
Indiana Jones, c'est le gros cercle.
Et le je peux pas. Non, voilà. Qu'est-ce qu'on aura aussi? Parce qu'il y a, en fait, si tu veux, le problème. Enfin, c'est un problème. Xbox a annoncé 1 milliard de jeux et il n'y a rien qui vient.
C'est vrai.
Donc, on aimerait bien des nouvelles. Je veux dire, la dernière fois qu'on a vu Fable, c'était à ce showcase-là l'année dernière. On n'en a plus entendu parler depuis, tu vois, les choses n'ont pas avancé.
Ouais, enfin, Fable, à mon avis, c'est pas demain. Hein.
Bah, le problème, c'est ça, c'est qu'on a une liste longue comme le bras de jeux où, à mon avis, c'est pas demain. Oui, t'as raison, mais c'est inquiétant. Que ça soit Fable, que ça soit Perfect Dark, des trucs comme Everwild.
Je sais même pas ce que c'est.
Mais voilà, mais c'est ça, on a oublié ce que c'est. C'est un truc, c'est ancestral, c'est le nouveau jeu de Rare, c'est le nouveau jeu des mecs de Sea of Thieves. Everwild.
Ah oui, mais
on
ils avaient
des trailers,
dit.
Des trailers,
mais oui, mais c'est le truc où ils avaient dit oh, on a fait ça, mais on sait pas ce que ça sera le jeu. Attends, ils savaient même pas ce que c'était leur jeu.
Ouais.
Il est pas prêt de sortir. Hein.
Il y a 5 ans. 5 ans plus tard, peut-être qu'ils ont trouvé, tu vois.
Mais j'ai pas l'impression.
J'ai un petit peu peur.
Voilà. S'ils avaient trouvé, ils en auraient parlé un peu plus.
Ils ont annoncé des trucs comme State of Decay 3. Ça oui. aussi, ça. Ah oui, bah oui, on peut l'avoir.
Bah, je sais pas, ça fait longtemps. Je sais
bah
pas.
Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et l'année dernière, ils ont annoncé des trucs en plus. Hein. Souls of Midnight, je sais même plus les noms des jeux.
Bien,
et ouais, c'était bien. Le nouveau jeu de In Exile, les mecs de Westland, le truc qui ressemble un petit peu à Bioshock en steampunk, ça ouais. avait l'air cool aussi. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Je suis sûr qu'ils auraient bien aimé avoir un Fallout à montrer, vu que c'est très à la mode en ce moment.
Ça, c'est sûr.
Et je pense qu'ils n'ont pas de Fallout. En chantier.
Mais on n'avait pas prédit un Fallout par Obsidian.
Ouais, sauf qu'Obsidian ils sont occupés, ils ont encore un jeu annoncé mais dont on n'entend plus parler, c'est The Outer Worlds 2.
C'est vrai.
Et ils sont également sur Avowed. Non, si tu veux, le truc qui se rapproche le plus de Fallout qu'on va avoir à ce showcase, et je fais la prédiction là un mois en avance, c'est qu'on va avoir un trailer de Avowed et il y aura marqué. Par les créateurs de Fallout New Vegas.
Oui, sûrement.
Voilà. Et ça va être cool.
Ou alors, ils vont peut-être annoncer que après, ils vont peut-être annoncer le prochain Fallout.
Ouais, avec un.
Avec un trailer 5 ans d'avance.
Avec juste un logo, quoi.
Voilà,
comme,
c'est ça.
Comme ils ont fait, comme ils ont déjà fait, et comme ils devraient plus faire, parce que du coup, les gens, ils attendent des jeux et les jeux, ils n'arrivent pas, tu vois.
C'est ça. Non, ils annoncent les jeux trop à l'avance et trop quand le projet n'est pas.
Mais ils ont annoncé des tonnes de trucs quand la console est sortie. Pour dire, alors cette génération, on va être à fond, ça va être trop cool.
Mais c'est ça, en fait, ça ne suit pas. Quoi.
En fait, il n'y a rien, tu vois. En fait, il n'y a rien, je veux
non,
dire.
Non, ils annoncent des trucs qui ne sont pas encore réels, quoi.
Ouais,
voilà.
et quand ils annoncent des trucs, finalement, quand ils arrivent, tu l'as attendu depuis tellement longtemps que tu es complètement dégonflé. Dans 2 semaines, il y a Hellblade qui sort. Hellblade 2 sort dans 2 semaines, tu te rends compte? Personne n'en a rien à foutre. Enfin,
j'en ai rien à foutre.
Mais voilà, c'est ça. Alors, ça va être joli, ça va être cool, mais c'est pas, il n'y a pas de... Voilà, on est épuisé d'avoir attendu ce jeu, quoi.
Mais oui, mais en plus, ils sortent ça, ça vaut 30 balles et ça dure 5 minutes. C'est pas ça, l'histoire?
T'exagères un petit peu, mais c'est oui, c'est l'idée, ouais.
Ça coûte 50 balles et ça dure 5 heures.
C'est pas un petit peu, ouais.
C'est ça.
Plutôt 8, mais... Alors,
non, mais sans déconner, ça dure 8 heures.
On va attendre d'avoir le jeu en main, ouais, mais c'est 8-10 heures annoncées. Donc en vrai, ça va être 5 heures, ouais, effectivement, ouais.
Ah oui, donc je faisais une blague, en fait, mais...
Tu faisais une blague quand tu disais ça dure 5 minutes, ça dure un peu plus. Même le trailer, il dure plus. Mais ouais.
Ouais, mais en vrai, ça dure vraiment pas longtemps, quoi.
C'est comme le premier. Le premier était pas long. Hein.
Mais je sais pas, on l'avait pas fini le premier parce qu'il était trop chiant, en fait. Donc, pardon, hein, mais Hellblade, finalement, c'est pas trop notre truc. Hein.
Bon, faut qu'on arrête parce que les gens vont encore dire qu'on favorise Microsoft. Ce podcast.
Mais Hellblade, c'est Microsoft.
Oui, justement.
Ah oui, ouais, bah ouais, oui, non. On favorise trop Microsoft. Bah, en même temps,
attends,
après...
Je n'ai pas commencé avec Sony, ils vont prendre tout à l'heure. Square Enix a annoncé 100... Alors, attends 2 secondes, je n'ai plus le chiffre.
Combien?
Des millions.
Des millions de quoi
millions,
de jeux?
Non, alors de pertes. Alors pourquoi des pertes? J'ai perdu mon papier.
T'as
130
pas de papier.
Millions... 130 millions d'euros. Alors, pardon, 22,1 milliards de yens.
Ah oui.
Ok. Donc... Ça fait grosso modo 130 millions d'euros en ce moment parce que le yen est très fatigué. Ça, c'est un autre problème, mais on n'est pas un podcast d'économie.
Ah non.
Ah non, le yen, ça va pas du tout.
Le yen, ça va pas.
Faut aller au Japon, mais faut y aller tout de suite. Hein.
Ok, bah écoute...
Tu es milliardaire. Hein, pour...
Semaine prochaine.
C'est, let's go. Donc voilà. D'investissement perdu. Qu'est-ce que c'est?
Ah.
Qu'est-ce que c'est? Le terme exact, c'est abandon d'investissement. On en a parlé il y a quelques semaines, Square Enix, avec son nouveau patron, monsieur Kiryu.
Ah oui, c'est vrai, monsieur Kiryu.
Magnifique. Takashi Kiryu a annoncé qu'il a pris une décision. Il a décidé que Square Enix, à partir de maintenant, allait faire des bons jeux.
Et du coup, ça coûte de l'argent, je comprends.
Non, ça veut dire qu'on met à la poubelle les mauvais.
Mais c'est ça.
Donc, abandon d'investissement, c'est ça. C'est-à-dire
c'est ça, c'est quand tu annules les jeux.
En interne, il y a un certain nombre de projets qui ont été soit annulés, soit revus en taille.
Ouais.
Ce qui fait qu'il y a du développement qui a été fait dans ces projets qui est abandonné. Mmh. Et donc ça, c'est estimé à 22,1 milliards de yens d'investissement dans des projets qui ne sortiront pas. Donc il y a beaucoup de choses qui sont annulées. Alors les fans, ça les fait paniquer immédiatement.
Mais Square Enix avait quand même pris l'habitude depuis quelques années de sortir pas mal de merde.
C'est ça, voilà.
Donc
les fans, ils sont en mode panique parce que les fans, ils se sont dit il y a Rebirth qui se vend pas, alors ils vont pas faire FF7 remake troisième partie.
Non, ça ils vont
non.
le faire, je pense.
Voilà. On a des rumeurs d'un remake de Final Fantasy Tactics, de FF9 et tout, ils vont les annuler. Non, tout ce qui a marqué Final Fantasy dessus, ils vont pas l'annuler.
Non.
Dragon Quest, on sait que Dragon Quest, ils en ont annoncé un nouveau qui tarde à venir, on n'a pas trop d'infos, ça aussi, ils vont pas annuler Dragon Quest.
Oui, voilà, c'est des grosses franchises, quoi.
Voilà. Faut savoir que Square Enix, c'est The Quiet Man. Square Enix, c'est Balan Wonderworld. Square Enix, c'est Foam Stars. C'est tout un tas de projets bizarres qui avaient pas trop de place dans le portefeuille de Square Enix. Tu comprenais pas trop pourquoi ils faisaient ça.
Ils avaient sorti des trucs récemment des
Harvestella, des machins.
Voilà, des trucs
vraiment.
Des RPG à plus savoir quoi en faire là.
À plus savoir quoi en faire et pas
de bonne qualité.
Pas forcément de bonne qualité. Donc voilà, à mon avis,
c'est une très bonne décision, Monsieur Kiryu.
S'il y a des projets qui sont annulés, c'est plutôt des projets de cette ampleur-là, des trucs qui étaient un petit peu hors sujet pour Square Enix. Et qui n'ont pas marché. Je veux dire, ils ont tenté des trucs. Si ça avait fonctionné, si ça avait été un filon, une mine d'or ou des jeux de qualité, pourquoi pas, tu vois. Mais non, ça n'a pas marché. Donc, ce type de projet-là, je pense que pendant un certain temps, en tout cas chez Square Enix, on va moins en voir et ils vont plutôt se concentrer sur des choses qu'on connaît, sur du Final Fantasy, sur du Dragon Quest, sur du Mana, sur du.
Voilà. Peut-être sur des jeux, mais de qualité.
Ouais.
Des jeux autres que leur grosse franchise, mais de qualité.
Complètement.
Voilà, et ça, je trouve que c'est une très bonne décision, parce que Square Enix, c'était un petit peu n'importe quoi depuis quelques temps.
Il y avait de tout, il y avait des très bons jeux, des très mauvais jeux, je veux dire.
C'était un peu éparpillé, quoi.
Voilà. Est-ce que tu te souviens de Left Alive?
Non.
Exactement. Donc, voilà, non, il y avait des sorties problématiques chez Square Enix, qui, voilà, c'est pas plus mal de se concentrer sur ce qui marche et d'apporter un maximum de soutien à ce qui est potentiellement des cartons et laisser de côté ce qui sont des paris qui fonctionnent pas, quoi. Voilà, c'est le bordel chez Take-Two. Alors Take-Two,
mais Take-Two, ils viennent pas de racheter Embracer?
Bah oui, ils viennent de racheter, pas Embracer, Gearbox.
Ouais, mais Gearbox était chez Embracer.
Oui, c'est ça, mais ils ont pas racheté Embracer.
Donc ils ont racheté un tiers de Embracer.
Ils ont racheté le plus gros studio d'Embracer. Voilà. Ils ont toujours GTA Online qui tourne à fond. Là, ils se préparent à sortir l'année prochaine le plus grand jeu de l'histoire de l'humanité. Voilà.
On se calme.
Bah, c'est ce qui va l'être.
Oui, mais GTA V, c'était déjà le plus grand jeu de l'histoire de
l'humanité. Oui, bah justement. Bref, c'est une boîte qui va bien. Malgré ça, le mois dernier, ils avaient annoncé qu'ils allaient licencier 550 personnes.
Évidemment.
Donc, ils sont en train de le faire, de licencier 550 personnes. Et les conséquences sont là. Le studio Intercept Games est complètement fermé. Intercept Games, c'est un studio de Take-Two. C'est eux qui faisaient le développement de Kerbal Space Program 2.
Ah ouais, effectivement.
Donc ça, le studio est fermé. Les fans de Kerbal Space Program qui espéraient que le 2 finisse par être un bon jeu un jour. Non, je pense que...
Peuvent aller jouer à Stellar Blade.
Kerbal Space Program 1, qui est tout à fait bien. Roll 7 est également complètement fermé. Et ça, c'est le plus tragique. Roll 7, c'est les développeurs de Holy Holy et de Roller Drome.
Ah, c'était bien Rollerdrome.
Oui, c'était bien. Et Oli Oli, c'était bien aussi. Hein. C'était, voilà, ces deux excellents jeux. Rollerdrome a été vraiment, l'année dernière, il a été salué par la critique. C'est un jeu vraiment excellent. Alors, c'est un petit jeu, c'est un studio indépendant, hein, mais c'est un petit studio qui fait des petits jeux, c'est normal. Ils font leur truc. Mais le studio est complètement fermé aussi. Tous les employés ont été remerciés. C'est une décision qui est vraiment bizarre.
Tu trouves ça bizarre, ils dégagent ceux qui rapportent le moins, hein, c'est tout. Hein.
Ouais, mais c'est ça.
Parce
mais...
que ça n'a pas d'intérêt de garder ça pour...
Ouais, mais pourquoi avoir ce type de studio de base dans ton portefeuille si même quand ils font des résultats qui dépassent les attentes, t'es pas satisfait, tu vois. C'est à ce moment-là, il faut pas faire d'indépendant. T'es que tout, à toute cette division, ils ont un sous-éditeur, ils ont une division d'édition de jeux indépendants, de jeux de petite envergure, de petits trucs, qui est Private Division. Private Division, ça fait partie de Take-Two, il faut s'en rappeler. Private Division, ils éditent des petits jeux, des jeux indépendants, des trucs comme ça, et généralement, c'est des super jeux qui sont édités par Private Division, mais ça leur suffit pas non plus. Donc, Private Division, il n'y a plus personne non plus, tu vois. C'est des choses qui, soit ça n'existe plus, soit c'est en voie de plus exister.
Bah, donc, je pense qu'il y a une époque où ils voulaient faire ça, et puis ils se sont dit, bon, bah, finalement, au vu des résultats, ça rapporte pas... Ça rapporte pas trop, ouais, mais on s'en fout.
C'est de base une mauvaise planification, une mauvaise gestion, parce que...
complètement.
S'ils sont déçus de studios et d'éditeurs qui rapportent le maximum qu'ils auraient jamais pu rapporter, c'est qu'ils avaient mal prévu leur truc, tu vois.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi.
Je veux dire, que tu fasses, que tu aies un studio, que tu investisses dans un studio et le jeu est un bide, il marche pas ou il est moyen et ça se plante, et donc du coup, ok. Mais si tu investis dans un studio et il rapporte le maximum possible de ce qui était prévisionnel et tu es quand même déçu, c'est qu'à la base... T'as pas compris ce que tu voulais ou dans quoi tu investissais, quoi. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est de la mauvaise gestion. Et
encore
c'est...
une fois. Mais c'est toujours le même problème, hein. Ouais. C'est toujours le même problème. Hein.
C'est malheureux. Ouais. C'est malheureux. Le jeu le plus vendu de l'année est dans la merde. Helldivers 2. Les choses tournent mal pour Helldivers 2, en particulier pour sa version PC. Les fans sont pas contents, sont furieux même. Il y a dans les quelques derniers jours, il y a eu plus de 100 000 avis négatifs sur Steam sur le jeu. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Helldivers 2 a annoncé que dans les jours qui viennent, il sera obligatoire de se connecter au jeu via son compte PlayStation Network. Mmh. Et voilà.
Alors, ça change quoi? Avant, t'étais pas connecté
Avant, t'étais pas connecté. Tu jouais... Si, t'étais connecté, mais t'es...
Bah si, c'est un jeu en ligne.
Ouais, mais t'avais pas besoin de créer de compte, tu vois. T'étais sur ton compte Steam, tu te connectais en multijoueur au jeu, tu jouais, quoi. Il y avait pas... Là, il faut créer un compte PlayStation... Ce que la plupart des joueurs Steam n'ont pas.
N'ont pas, oui, bien sûr.
Créer un compte chez Sony, chez PlayStation. Et de manière générale, les joueurs, et encore plus les joueurs PC, ils n'aiment pas que tu leur forces à faire des choses. Donc, ils ne sont pas contents.
Sony, ils veulent plus de sous, c'est ça?
Bah, c'est gratuit, un compte PlayStation.
Parce que ça peut leur foutre, alors?
Bah, ça les fait chier.
Alors, non, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre à Sony de les obliger de...
Alors, c'est pas parce que c'est gratuit que ça rapporte pas d'argent.
C'est un problème de fric, on est d'accord.
Oui, évidemment. On est dans une société où tout ce qui est donné, ça a de la valeur. Donc, avoir un fichier de gens inscrits sur le PlayStation Network, des trucs comme ça, voilà. Tu as une base de données avec des gens, potentiellement leur numéro de carte bleue, des trucs comme ça. C'est des choses qui ça a de la valeur. Ça permet de faire gonfler tes chiffres. Ah oui, on a un pic d'inscription sur le PlayStation Network dans tes résultats financiers, des trucs comme ça. Mmh. Voilà, ça a plein de valeur, donc ils veulent ça, surtout sur un jeu qui a autant de succès que Helldivers 2. Donc ça plaît pas aux joueurs du fait que c'est quelque chose qui est imposé après coup pour un jeu qu'ils ont déjà acheté.
Clairement,
donc,
ouais.
Du coup, pour un jeu qu'ils ont payé, s'ils le font pas, ils perdent accès au jeu. Steam,
ils perdent accès au jeu carrément, quoi.
Bah oui, tu peux plus te connecter, hein, pour un jeu que t'as payé. Donc, alors que ça n'a jamais été obligatoire. Donc, Steam, de leur côté, ils sont fair-play. Si tu demandes remboursement du jeu à cause de ça, ils te le donnent. Il y a pas mal de gens aussi qui pestent parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde, surtout dans des régions en voie de développement, où tu ne peux pas créer de compte PlayStation Network. C'est juste, les inscriptions ne sont pas ouvertes.
Hein. Et du coup, tu perds ton jeu. Et voilà.
Du coup, les gens sont quand même, ils râlent à raison.
D'accord.
Donc, ils font au fur et à mesure des ajustements qui vont pas forcément dans le bon sens, puisque le dernier ajustement qui est tombé aujourd'hui, c'est que le jeu n'est plus disponible à la vente dans ces pays.
Super.
Voilà. tu vois, on leur a dit, oui, mais on est dans nos pays, on peut pas créer de compte. Et Sony a fait, ah oui, c'est pas bête, ah ben, on va plus le vendre alors.
Ah non, mais Sony... C'est bon, quoi.
Donc voilà, donc c'est une décision bof. Tout le monde s'en prend aux développeurs de Helldivers 2 qui, eux, ils disent on fait ce qu'on peut, mais on a un éditeur, on n'a pas trop le choix.
Bah, c'est Sony qui oblige là, hein. Eux, ouais, ils peuvent rien faire de plus.
Complètement,
hein.
Ils peuvent rien faire de plus. Ils sont édités par Sony et c'est Sony qui gère ce volet du truc. C'est malheureux. Mais c'est affaire à suivre, hein, parce que ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bruit, donc il risque d'y avoir des retournements dans les jours qui viennent. On en reparlera. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Final Fantasy VII Rebirth, on revient dessus, serait, selon les l'entreprise d'analyse de jeux vidéo Circana, qui sont généralement plutôt pointu. Final Fantasy VII Rebirth est le quatrième meilleur jeu vendu aux États-Unis cette année. Derrière Helldivers 2, derrière Dragon's Dogma 2 et derrière je sais plus quoi, Call of Duty Modern Warfare 3. Donc c'est plutôt correct.
Bah, je sais pas, voilà. Tu disais que ça s'était pas vendu.
Alors, il n'y a pas beaucoup de jeux qui se vendent bien cette année.
Oui, parce que c'est pas non plus...
Alors, Helldivers 2 fait des chiffres délirants, ça, on en a parlé. Derrière, Dragon's Dogma 2 fait des chiffres surprenants, mais voilà, c'est pas... ils avaient vendu 2,5 millions en deux semaines, c'est cool. Je sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais c'est des belles ventes. Call of Duty, bon, il continue à se vendre très très bien. Final Fantasy VII Rebirth, c'est quatrième dans ce classement-là, donc voilà, c'est des chiffres qui sont corrects, hein, mais qui restent en dessous de ce que faisait Remake. Qui reste en dessous de ce que faisait Remake, mais après c'est normal. C'est normal parce qu'il y a moins de consoles disponibles, c'est plein de circonstances qui sont différentes, donc c'est pas surprenant. On va pas reprendre tout ce qu'on avait dit la dernière fois.
On a déjà dit, ouais.
On a déjà dit tout ça, mais voilà, c'est des choses qui se confirment quand tu as des chiffres américains, des trucs comme ça, parce qu'on avait beaucoup de chiffres européens ou des prédictions sur les ventes européennes, mais voilà, au niveau mondial, ça a l'air de se confirmer. Après, c'est le genre de jeu... Encore une fois, on l'a déjà dit, mais c'est le genre de jeu qui va se vendre sur un très long terme, au fur et à mesure que les gens y arrivent et qu'il y a des promos et il va y avoir des offres style PS Plus et des choses comme ça, des versions PC. Il y a plein de choses qui vont faire que Rebirth va avoir une seconde, voire une troisième vie, quoi. Ubisoft annonce enfin une date de sortie pour leur shooter free-to-play Ex-Defiant.
Mais ils n'avaient pas arrêté ça ?
Ils avaient repoussé, au point qu'ils l'avaient repoussé, je crois que c'était à une semaine de la sortie.
Ok, je pensais qu'ils ne le faisaient plus en fait.
Il y est, il arrive, c'est donc un free-to-play, c'est un genre de clone de Call of Duty, hein, c'est la réponse de Ubisoft à Call of Duty.
À Valorant plutôt.
C'est
pas un Valorant ?
Je pense pas que ça soit un Valorant, parce que je pense pas qu'il y ait ce système de héros, de trucs comme ça. C'est plus des factions. Ça ressemble plus à Call of Duty avec des modes de jeu qui sont plus en Call of Duty. Alors ouais, on est sur des 6 contre 6, hein, sur la plupart des modes de jeu, j'ai l'impression. Mais voilà, en tout cas, ça sort le 21 mai sur PC, Xbox et PlayStation. Et voilà, c'est free-to-play, on est sur un lancement, ils partent sur une pré-saison de 6 semaines pour le lancement, avant le lancement de la première vraie saison, donc 6 semaines plus tard. Il y a 5 modes de jeu, alors les modes de jeu s'appellent Domination, Hotshot, Occupy, Escort et Zone Control.
Ouais.
Voilà, c'est assez clair, 14 maps, 24 armes. 44 modifications d'armes et 5 factions, Parce que donc c'est Ex Defiant, c'est un petit peu le shooter qui rassemble les différents univers de d'Ubisoft.
Ubisoft.
Avec donc les factions, tu vas pouvoir jouer dans la faction Libertad, qui est basée sur Far Cry, et les Fantômes, qui est de Ghost Recon, Echelon de Splinter Cell, les Cleaners de The Division ou DeadSec de Watch Dogs.
D'accord.
Voilà. Tu t'identifies à qui
Personne.
Sur les cinq. Tu fais pas d'effort.
Non, je fais pas d'effort. Moi, tu m'aurais mis Assassin's Creed, ok, mais alors tous ces machins là.
Il y a pas Assassin's Creed pour l'instant. Hein. Alors attention, il y a.
Non, mais attends. De toute façon, ça n'a aucun sens. On est d'accord.
On est d'accord.
Voilà. Excuse-moi, hein, mais de base, il y a un problème. Hein.
Ouais. Et Assassin's Creed, ils ont peu de mitraillettes. Peut-être que c'est pour ça qu'ils sont pas trop. Là, on est vraiment sur des trucs plutôt.
Non, j'ai compris, mais
j'allais
dire...
on est sur du Tom Clancy, mais non, il y a même du Far Cry, du Watch Dogs, mais ouais.
Mais ce que je comprends pas, c'est quelle est l'explication scénaristique pour assembler tous ces trucs, il y a aucun lien entre eux.
Oui, mais ça n'a jamais...
C'est juste pour rigoler.
Ça n'a jamais arrêté personne, alors est-ce qu'il...
Ouais, quand même, je veux dire, si tu compares à un jeu comme Overwatch, où j'ai l'impression Valorant, même que je connais pas trop, c'est quand même, il y a une histoire, il se passe un truc, quoi.
C'est sûr, et même quand il y a des trucs qui mélangent plusieurs univers, c'est... Parfois, il y a une explication, tu vois, que Heroes of the Storm, c'est le Nexus, c'est le confluent des différents univers.
Voilà, c'est ça.
Tu es absorbé par... Tu dois te battre à cet endroit-là, mais tu viens d'un univers différent, quoi.
Oui, mais en plus, à la limite, Heroes of the Storm, bon, c'est des univers qui, je sais pas, qui se recoupent un peu parfois, quoi, tu vois. Je sais pas, moi, hein, mais... Oui, enfin... Non, là, vraiment, c'est... On met tout dans un panier et on secoue, quoi.
C'est ça. Alors, je fais mon actu un petit peu dans un ordre différent, parce que, du coup, puisqu'on est dans... On met tout dans un panier et on secoue, il y a un nouveau jeu qui a été annoncé cette semaine. Ça s'appelle Funko Fusion.
Okay.
C'est un jeu de Funko Pop.
Ok.
Ok. C'est un jeu de Funko Pop, donc tu vas jouer. C'est un jeu peuplé de Funko Pop.
C'est qui fait ça?
C'est Tenten Games, je sais pas qui c'est.
D'accord.
C'est une grosse production, hein, ça a l'air d'être un très gros jeu. Ça sort le 13 septembre sur PC, Xbox, PlayStation et sur Switch. Et c'est un jeu qui. C'est un jeu d'action coopératif avec plein de Funko Pop issus de différentes licences et de différentes marques.
Oui.
Des choses qui vont très bien ensemble. Hein.
Ah, j'imagine, oui.
Je vais faire la liste et tu m'arrêtes quand tu me crois plus, quoi. Sans ordre particulier. Des personnages emblématiques de franchises comme Nope, le film de Jordan Peele.
Ah oui, carrément.
Chucky.
Ok.
Scott Pilgrim. Jurassic World. Pas Park, hein, World. The Walking Dead. Retour vers le futur. Shaun of the Dead. Les Maîtres de l'Univers. Les Dents de la Mer. Umbrella Academy. Battlestar Galactica. Et Hot Fuzz. La liste n'est pas complète.
Pourquoi?
Je sais pas.
D'accord.
Je sais pas, mais si tu rêvais de jouer... Je sais pas, le requin des Dents de la Mer, peut-être.
Exactement. T'es bien tombé.
Voilà,
hein.
C'est ça.
Tu savais. Hein.
Ou Marty McFly, ou... je sais pas, Chucky. Voilà, c'est le jeu pour toi. Ça sort le 13 septembre, ça. Merveilleux. Non, mais je comprends pas.
Moi non plus.
Retour à l'actualité normale. Starfield, il y a un patch qui sort là au mois de mai. Ils font des patchs régulièrement pour améliorer des trucs. Pas mal de choses intéressantes et notables sur ce patch, comme par exemple des modes performance améliorés sur Xbox pour jouer à 60 images par seconde ou presque. On n'a pas encore eu le patch entre les mains pour le tester, mais en tout cas, c'est cool d'avoir un petit peu plus de fluidité sur Starfield. Des choses incroyables comme des cartes.
Il n'y avait pas de cartes.
Il n'y avait pas de cartes, non, si tu dans les cartes des villes, des planètes que tu explores et tout. Donc
ouais,
voilà,
quand même, ouais.
Pour pouvoir te repérer un petit peu.
Après, quand tu vas explorer l'espace, tu n'as pas de cartes. Hein. J'imagine que c'était ça l'explication au départ.
C'est ça. Et ce à quoi on leur a répondu, ouais, mais ok, oh, mais pour les villes au moins, putain. Non, mais merde.
Ce à quoi on leur a répondu, mais on va pas explorer l'espace en vrai, là, on est dans un jeu vidéo, bordel.
Voilà, des trucs indispensables, comme la possibilité de décorer l'intérieur de ton vaisseau, des trucs comme ça. Bref, plein de petites choses qui se rajoutent un petit peu à Starfield et qui font qu'un jour, ça sera peut-être un jeu à la hauteur de ce qui était attendu. En tout cas, voilà, ils n'arrêtent pas le travail, ils continuent de rajouter des choses et de faire des améliorations au fur et à mesure. Ils ont teasé, alors c'est pas dans ce patch-là, mais c'est teasé fortement, des véhicules terrestres pour pouvoir explorer les planètes.
Mais il n'y en avait pas ?
Non, c'est tout à pied.
Mais c'est des planètes, tu peux pas les faire à pied ?
Bah si, mais c'est long.
Putain.
Et c'était ça le problème. Tu avais un marqueur à l'horizon, tu marchais pendant 9 minutes.
Putain, mais ça va me perdre ce jeu, rien. En fait. C'est à ça qu'il faut que je joue.
Mais c'est ça. Putain. Je pense. Bref, plein d'améliorations. Est-ce que le jeu sera praticable pour le mois de septembre, à la sortie du premier DLC, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est plein d'améliorations. C'est plutôt positif, même si je pense qu'on n'est pas encore arrivé. Quoi.
Mais donc, les véhicules, c'est pour septembre ou pas ?
C'est teasé. On ne sait pas s'il sera. Je pense pas qu'ils aient...
Parce que là,
ça serait une erreur stratégique de mettre ces véhicules dans un DLC payant. Je pense que ça doit être quelque chose qu'ils doivent donner via un patch à tous les joueurs.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais bon.
Mais bon.
Oui.
À voir. À voir, à voir. Rapidement, sur des news un petit peu rapides, interview de Hidetaki Miyazaki, créateur de Elden Ring, entre autres, sur Elden Ring et son extension Shadow of the Erdtree. Shadow of the Erdtree est confirmé, ça sera le seul DLC d'Elden Ring. Il n'y en aura pas d'autres après.
D'accord.
Cependant, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la série.
Ah.
Voilà. Donc, Elden Ring 2, c'est sans doute quelque chose qui est dans les plans.
Il est sorti, le DLC ?
Non.
De Elden Ring, il n'est pas sorti ?
Non, il n'est pas sorti. Non, il sort le 21. Il sort le 21 juin. Ça approche. Hein.
Je me disais, on n'en a pas beaucoup parlé.
On n'en a pas beaucoup parlé. Non, je pense qu'on va y jouer. Hein.
Toi, peut-être.
Oui, moi peut-être, et tu es, voilà, et c'est comme
je
ça.
Je serai obligé de regarder.
Et tu vas en bouffer. Qu'est-ce que fait PlayStation sur son PlayStation Plus ? Bonne question.
Ils mettent Stellar Blade.
Ils mettent pas Stellar Blade.
Et ils t'obligent à faire des choses.
Non.
Ils t'obligent à te connecter au PSN pour,
exactement.
Pour pouvoir écrire un article sur Stellar Blade.
Non. Tunique est rajouté au PlayStation Plus. Non, mais il y a des bons jeux qui sont rajoutés sur le PlayStation Plus.
Mais j'avais juste envie de cracher sur PlayStation.
Ben, je vois. Il y a des bons jeux qui sont rajoutés sur le PlayStation Plus au fur et à mesure. Hein. Ce mois-ci, on a Tunique qui est rajouté. C'était un super jeu.
C'était Tunique, bien Tunique. Hein,
voilà,
ouais.
C'était top. J'ai mon t-shirt Tunique en ce moment, je suis très content. Ghost Runner 2 qui est également très très bon.
Il y a de la sauce barbecue sur ton t-shirt Tunique, non ?
Pas du tout, je l'ai changé ce matin. Je sais pas quelle réputation tu essaies de me faire.
Ben, moi j'ai du chocolat sur mon pantalon. Hein.
Oui, ben, voilà, tu vois, donc tu parles de moi alors que c'est toi la pire.
Non, on est tous les deux pareils. Hein,
moi je suis tout à fait.
Oui, toi t'as pris ta douche, t'es propre et tout.
Je suis propre, je suis complètement.
Non, moi je suis pas du tout propre, j'ai un pantalon plein de chocolat.
Exactement. Donc Tunic, Ghost Runner 2, Destiny 2, Lightfall, juste à temps pour la prochaine extension. Et eSports FC 2024, le FIFA, pas FIFA de l'année dernière. Donc tout ça disponible sur PS Plus, donc ça c'est plutôt cool. Non, ce que je comprends pas, c'est que retirer du PlayStation Plus à partir du 21 mai, Horizon Zero Dawn.
Pourquoi ?
Ben voilà, pourquoi ? Sony, pourquoi vous retirez vos propres jeux ? C'est, je sais pas, de...
Ben, c'est pas la seule décision con qu'ils ont pris. Hein.
Alors,
on rappelle que Sony est l'éditeur de Stellar Blade.
Ah ça, c'est bon. Horizon Zero Dawn, donc, supprimé du PlayStation Plus le 21 mai.
Il y a une explication ou pas ?
Alors, explication officielle, non. Explication officieuse. Bon, on a dit que début juin, on avait le showcase de Xbox.
Ouais.
PlayStation va également faire un showcase, sans doute un petit peu avant. C'est sans doute quelque chose qui va se passer au mois de mai.
Ah oui, eux, ils aiment bien dire « c'est nous les premiers, donc on le fait un petit peu avant ».
Ils vont faire donc leur truc. Est-ce que c'est un showcase ? Est-ce que c'est un state of play ? Quel format ça va prendre ? Je ne sais pas, et peu importe, mais il y a des rumeurs persistantes d'un remaster de Horizon Zero Dawn.
Et pourquoi ils viennent sortir ?
Oui, mais ça les a pas arrêtés pour The Last of Us.
Oui, non, mais au bout d'un moment...
Ça les a pas arrêtés pour Spider-Man. Non, oui, voilà. Donc, remaster de Horizon Zero Dawn.
Quoique, alors attends.
Je dis pas que
Zero Dawn, c'est le premier.
Zero Dawn, c'est le premier. Zero Dawn, c'est le premier.
Oui,
alors,
c'est ça. Alors,
le premier au niveau visuel du deuxième.
Ah non, mais c'est ça, ils vont faire ça, un remaster.
Ça les éclate.
Ils vont te refaire. Bah, ça les éclate, ça leur apporte du fric, surtout.
Ça leur apporte
du pognon. Ils font payer.
Et s'ils le font avec autant de tact, entre guillemets, que pour The Last of Us 2, où ils ont fait une upgrade à prix réduit pour ceux qui ont déjà le jeu, moi, ça me va très bien.
Par contre, pour The Last of Us 1, ils n'avaient pas fait d'upgrade a priori.
Oui, mais c'était avant, tu vois, ils se sont fait taper dessus. Alors depuis, ils ont recorrigé un petit peu leur approche. Peut-être qu'ils vont faire pareil. On verra. On verra.
Est-ce qu'ils apprennent de leurs erreurs chez Sony ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du côté du Xbox Game Pass, tu te rappelles de Humanity ? Le jeu bizarre avec les petits bonhommes qui tombent dans les ravins et tu les diriges avec le chien,
non,
et c'était très
c'était...
planant, très bizarre, très puzzle. Humanity, qui était sorti sur PlayStation et sur le PlayStation Plus l'année dernière, arrive sur Xbox et sur le Game Pass. Donc maintenant, c'est prévu pour le 30 mai. Vous pouvez marquer votre calendrier. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est... Rapidement, parce que cet épisode... ah non, il n'est même pas si long, c'est juste que je suis fatigué.
C'est ça.
Non, alors, il y a eu, toujours chez Xbox, hein, il y avait un showcase de jeux indépendants cette semaine. Où ils ont montré pas mal de choses. En particulier, nous, on a retenu, en tout cas moi, j'ai retenu, le nouveau jeu de Kaizen Games, les développeurs de Paradise Killer. Ils annoncent leur nouveau jeu... qui s'appelle Promise Mascot Agency.
Ça a l'air cool.
Paradise Killer était déjà très étrange. Là, ils annoncent donc c'est le premier open world mascot management crime drama.
Ouais, non, c'est.
L'histoire, c'est quoi ? Tu joues un ancien yakuza déshonoré, tombé en disgrâce, qu'on envoie en punition. S'occuper dans un village pourri reclus au fin fond du Japon d'une agence de mascottes. Alors c'est dans un village un petit peu spécial où les mascottes, c'est-à-dire alors quand je dis les mascottes, c'est tu sais dans les parcs d'attractions des mecs où il y a les trucs, les costumes, il y a des mecs dedans et tout. Non, là c'est des vrais, les mascottes, elles existent, elles sont vivantes.
Oui.
Elles vivent en harmonie avec l'humanité dans ce village reclus. Et y a donc cette agence c'est une agence de talent, hein, c'est-à-dire que tu les recrutes pour les envoyer travailler un petit peu à gauche, à droite dans le monde. Et tu dois donc gérer cette agence, donc gérer les besoins des différentes mascottes que tu vas recruter, les envoyer travailler, explorer la ville. C'est très étrange.
Mais ça a l'air
c'est
trop
très étrange. Donc tu dois gérer tes mascottes, tu dois aussi gérer les conséquences de ton ancienne vie criminelle chez les Yakuza. C'est très bizarre visuellement, c'est très étrange, mais ça a l'air très cool. Ça sort très certainement l'année prochaine. Et on va suivre ça avec attention. Un nouveau jeu Batman Arkham a été annoncé.
Ah.
Eh oui, les fans de Batman peuvent se réjouir, hein, après Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. On avait peur que la série s'arrête avec Kills the Justice League, mais rassurez-vous, Batman Arkham Shadow a été annoncé, développé exclusivement pour MetaQuest 3.
Ah oui, je sentais que...
Tu sentais qu'il y avait un piège.
Je sentais qu'il y avait un piège, voilà,
donc... J'ai même pas envie d'en parler. Ça sort fin 2024. C'est un jeu exclusivement en VR dans l'univers de Batman Arkham. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est vraiment pour... C'est de la provoque pour les fans.
Mais non, bah, ils font ça pourquoi ? Parce qu'on leur a fait un chèque. Hein.
Et
ma foi.
Et après, pour être tout à fait honnête, le jeu va être cool, je pense, parce que le développeur, c'est Camouflage. C'est un des meilleurs développeurs de jeux VR actuels. Ils avaient fait un jeu qui s'appelait République, qui était cool. L'année dernière, il y avait Iron Man VR qui était très bien. Et voilà, c'est eux qui prennent ce Batman Arkham. Donc le jeu va être cool, mais c'est certainement pas ce qu'attendaient les fans de Batman. Malheureusement. Voilà. Sinon, on a des rumeurs d'un MMO Game of Thrones.
Pourquoi pas, ouais.
Pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est un truc qui se passerait autour de... Dans le Nord, hein, évidemment, parce que c'est là qu'il se passe des trucs intéressants dans Game of Thrones. Autour du mur, avec possibilité de faire des incursions au nord du mur.
Si tu fais un MMO, tu fais pas tout le truc ?
Bah, je sais pas, il y aura peut-être tout le truc, hein, mais c'est voilà, pour beaucoup de Winterfell, beaucoup de murs et de nord et de trucs comme ça, avec des, mmh. avec des lieux iconiques de la série télé. Alors, très étrange, le développeur serait Embark Studio, les Suédois, qui ont sorti récemment The Finals, qui sont en train de développer Ark Raiders. C'est des anciens qui bossaient sur des jeux comme Battlefield. Qui serait sur ce projet.
Ça va être des trucs de bataille.
Je sais pas à quoi ça va ressembler.
C'est orienté grande bataille alors.
Peut-être. En tout cas, c'est un petit peu leur spécialité. Maintenant, voilà, c'est décrit comme un MMORPG. Hein, donc c'est vrai, ça serait un jeu de rôle quand même. Hein,
Écoute, ils n'ont pas trop l'habitude des MMO, ces gens. Et déjà, ça serait bien qu'ils finissent Ark Raiders.
Voilà, qu'ils finissent leur jeu qu'ils ont annoncé avant d'en commencer d'autres. Hein, c'est, on dirait moi, quoi.
Ouais, voilà.
On verra bien.
Ouais, parce que pour l'instant, c'était... ça paraissait pas trop sain, comme ils avaient annoncé Ark Raiders. Après, ils sont revenus en disant « on fait The Finals avant ». Et finalement, The Final, ça marche pas. Mmh. Et ils ont toujours pas fini Ark Raiders. Et maintenant, ils prennent ces gens-là pour faire le MMO Game of Thrones.
The Final, ça a marché pendant un mois et demi, quoi. Et l'intérêt est redescendu. Mais à sa sortie, il y a eu des gens qui ont bien aimé. La popularité a vite baissé.
Oui, mais est-ce que ça leur a rapporté... Le principe, c'était que ça leur apporte de l'argent pour finir Ark Raiders. Je suis pas sûr que ça ait très bien marché, cette histoire.
Tout à fait, c'est bizarre. À suivre, en tout cas, on risque d'en entendre parler prochainement. On termine cet épisode par une magnifique interview du patron de Level 5, le développeur de Professeur Layton,
ah.
qui est un psychopathe.
Ah Akihiro Layton, Ino. Ou le...
Non, Akihiro Ino. Le...
Professeur Layton, c'est un psychopathe aussi.
Alors, il explique dans cette interview. Alors, pourquoi je me permets de traiter les gens de psychopathes ?
Oui, parce que d'habitude, tu te permets pas.
Non.
Peggy 18.
Je cite : Il y a un monde anormal à l'intérieur de moi, mais j'essaye de ne pas y aller. Je ne fais que des choses tirées de la partie juste de mon esprit à la place. Cependant, au fond, j'ai vraiment envie de visiter ce monde anormal. Je veux aller dans ce monde sombre et anormal, et je pense que je finirai par le faire. Une fois que je sentirai que Level 5 est stable et que j'aurai l'espace pour faire ce que je veux, je le ferai. Donc il explique qu'il en a marre de faire le professeur Layton. Il veut faire des jeux ultra violents et il veut faire des jeux érotiques 18+.
Eh ben voilà, c'est ça.
Merci Monsieur Ino-san.
Écoute, au moins il l'assume.
Mais complètement.
Je suis désolée, je préfère un mec qui dit ça plutôt qu'un mec qui va faire Stellar Blade et en essayant de faire croire qu'il est normal et qu'en fait il est exactement comme ça.
Voilà.
Et je préfère quelqu'un qui va dire je vais faire un jeu érotique plus 18 que quelqu'un qui va dire je vais faire Stellar Blade alors que ce qu'il veut faire c'est un jeu érotique plus 18 quoi.
Exactement.
Voilà. Donc et je comprends que quand t'as ça dans la tête et que tu fasses Professeur Layton, ça te frustre un peu quoi.
Évidemment. Ah oui, non, c'est sûr que Professeur Layton, tu peux pas trop t'exprimer quoi.
Bon, après c'est flippant.
Je suis d'accord. Non mais après je suis d'accord avec toi. Moi j'en demande un petit peu plus. Je veux un jeu érotique 18+, ultra-violent, avec le professeur Layton. Moi, c'est ça que je veux. Allez, petit agenda des sorties. Il y a un jeu pour toi qui sort cette semaine. Et deux jeux pas pour toi. Alors, les jeux pas pour toi, demain, mardi 7 mai, sortira sur Xbox, PlayStation et PC Prison Architect 2. Pour ceux qui aiment les city builders, sauf que tu fais une prison. Le premier était rigolo, le premier était fun. Il y a eu des tonnes et des tonnes de mises à jour que j'ai pas suivies parce que j'étais vraiment plutôt au début. Mmh. Donc je suis curieux de voir ce que sera ce Prison Architect 2. Donc on testera. Il y a V-Rising aussi sur PC. V-Rising, alors c'est sorti il y a un petit moment en early access. Hein, c'est un genre de, c'est un Diablo-like.
Et puis, tu m'avais dit que pourquoi ça c'est pas pour moi ça.
Oh oui, ah non, si ça, ça peut être pour toi, V-Rising. Ils ont annoncé récemment une collab Castlevania.
Oui, donc, voilà, c'est ça.
Exactement,
ouais.
Ça a l'air très cool. V-Rising, mercredi 8 mai, il sort en version 1.0. Le jeu est prêt, okay. Officiellement, donc ça peut être l'occasion de se plonger dedans.
Tout à fait.
Donc on va voir. Et le 9 mai, jeudi, sort sur PlayStation, PC, Switch et sur Xbox, y compris sur le Game Pass, Little Kitty Big City. C'est un jeu où tu joues un chat,
ouais,
qui veut rentrer chez lui dans une ville, je crois que c'est une ville japonaise. Mmh.
Et en chemin, il fait
plein de bêtises. Visuellement et sur le style des conneries que tu peux faire avec le chat, ça rappelle un petit peu Untitled Goose Game.
D'accord.
Ça a l'air rigolo. Okay. C'est sur le Game Pass, donc ça mange pas de pain. On va tester Little Kitty Big City. Ça a l'air très cool. Tu peux te rouler par terre. Tu peux faire une sieste sur le clavier de l'ordinateur portable des gens. Voilà.
Je sais pas si ça va pas me faire trop de peine. Ah, désolé.
Oui. Il y a ça aussi.
Malheureusement. Je sais pas si ça va pas me faire trop de peine et me rappeler les conneries de Poupie.
Mais parce que c'est plein de conneries.
J'imagine. Non, après, ce qui serait rigolo de faire, c'est un chat qui essaye de se retrouver, mais à Marseille.
Le jeu
serait complètement différent.
C'est un Souls-like.
C'est
pas pareil. Voilà. Bon, merci, Aza, pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente semaine. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Bisous.
Bisous à tous.